Bien content de vous rappeler ce qu'on a annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui, conjointement avec l'Impact de Montréal, cette entente pour les deux prochaines années pour la radiodiffusion des matchs de l'Impact, saison 2019 et saison 2020, à l'antenne du 98.5 et sur l'ensemble du réseau Cogeco. On est bien fiers de cette association avec notre équipe de soccer. Et parlant de notre équipe, eh bien, dispute demain un dernier match préparatoire contre DC United. Notre collègue Jérémy Filosa est à Saint-Pétersbourg pour couvrir les activités de l'équipe et il s'est entretenu aujourd'hui avec l'entraîneur-chef Rémi Garde, on écoute ça ensemble.
Si on se transporte à il y a un an, nous étions ici dans le même lobby. À quel point les choses ont changé pour vous, mis à part le fait que je crois que vous avez perdu un petit peu de poids, là. Vous êtes plus slim, plus en forme.
Oh, j'aime pas parler de moi, donc c'est pas important, mais tout va bien, je rassure tout le monde. Les choses ont changé, oui, il y a plein de choses qui ont changé. Un an d'expérience en plus avec mon groupe. Plus de connaissances de la Ligue, plus de connaissances de ce qui nous attend effectivement. Mais je dirais que les plus gros changements, je ne mettrais pas l'emphase là-dessus. Je les mettrais sur, une fois de plus, les changements à l'intérieur de l'effectif et le niveau global du groupe que je perçois aujourd'hui.
Alors, vous avez un 11 partant qui semble amélioré. Vous avez des joueurs un peu plus stables, disons. Le 11 partant est plus stable qu'il y a un an. Pour ce qui est du banc, vous semblez avoir un peu sacrifié l'expérience pour la jeunesse. Est-ce que vous le voyez comme ça?
Je le vois un peu moins figé que ce que vous venez de décrire, avec un 11 partant et des jeunes sur le banc ou en réserve. Parce que j'ai assez d'expérience pour savoir que dans le football, tout est remis en question la semaine d'après. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on se remette en question par rapport à notre bonne deuxième partie de saison, qui est effectivement qui a été bonne, mais qui est derrière nous. Donc ça, c'est important. Après, la constitution de mon groupe, c'est vrai que lorsque j'étais arrivé, si vous vous souvenez bien, c'était aussi un des axes qu'on m'avait fixé, c'était de rajeunir l'équipe, puisque c'était la deuxième plus âgée en moyenne sur la saison 2017. J'avais pas pu le faire tout de suite, on n'avait pas pu le faire tout de suite pour diverses raisons. Là, je trouve qu'aujourd'hui, pour revenir vraiment sur le cœur de votre question, oui, il y a un noyau, on va dire, assez évident au départ de joueurs qui vont avoir un peu plus de temps de jeu, mais voilà, rien n'est figé encore une fois. Et si je me réfère à l'excellente première mi-temps que j'ai vue hier de la part des 11 joueurs qui ont débuté sur le terrain, voilà, c'est un indice aussi.
Oui, en fait, quand je regarde la moyenne d'âge des joueurs qui, bon, ne forment pas nécessairement mon 11 partant, c'est 22 ans. C'est très jeune, mais est-ce que selon vous, il y a des joueurs dans ce groupe-là qui, dès cette année, pourraient vraiment éclore, pourraient prendre une place importante dans cette équipe-là?
Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire... Et ça dépend moins de moi que d'eux, finalement. Hein. Ouais. Très sincèrement, je ne suis pas là pour faire jouer des gens par rapport à un contrat, ou j'ai rien contre les contrats, mais j'ai surtout, je suis pour que l'équipe gagne. Donc, effectivement, j'aime cet état d'esprit qu'ont apporté les jeunes qui sont un petit peu derrière, je vous le concède aujourd'hui, en termes de catégorie dans le groupe. Mais j'aime cette ambition qu'ils ont, cet esprit de fraîcheur, cette absence de calcul. Parfois, il faut justement leur donner un peu d'expérience, mais il n'y a pas de calcul derrière. Et je dirais que ça pousse le groupe vers le haut, ce qui n'était clairement pas le cas l'année dernière, même après la fin du mercato, où on s'imagine que j'avais fait ce que j'avais voulu, mais on a tous fait au club ce qu'on a pu, on n'a pas pu faire ce qu'on avait voulu. Or, cette année, voilà, j'estime que l'énergie à l'intérieur du groupe me semble meilleure, mais je reste très, très prudent dans mes propos.
Alors, cette saison, avec la MLS, vous jouez le même nombre de matchs, mais en 3 semaines de moins. En plus, il y a la Gold Cup cette année. En plus, le championnat canadien, ils ont ajouté 2 matchs, donc une ronde de plus. Quand vous regardez cela, est-ce que vous vous dites, on n'a pas le choix de faire des rotations? Sinon, on arrive au mois de juillet et nos meilleurs sont trop fatigués et ceux qui sont sur le banc n'ont pas suffisamment d'expérience pour nous aider. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on se dit, obligé d'éparpiller les minutes le plus possible?
Pourquoi pas? C'est un monde idéal. C'est de la théorie qu'on aime expliquer et faire avant. Ce n'est pas une critique envers vous, mais c'est un constat. Bien sûr que dans un monde idéal, j'ai fait des rotations. Les jeunes en ont profité pour devenir meilleurs. On n'a pas perdu de match pendant ce temps. Le niveau de l'équipe s'est pas affaibli. On arrive aux séries. Voilà, on peut élaborer. Vous connaissez la formule que je ne vais pas vous citer, mais... Bon, moi, je ne suis pas comme
ça. C'est toujours le plan de match, mais les choses changent en cours de route, c'est ce
que vous dites. Je suis très pragmatique. Maintenant, je n'oublie pas non plus... vous savez, les joueurs expérimentés, quand vous leur dites « tu vas souffler un peu parce que dans 3 mois, on va peut-être jouer les séries et puis il faudra que tu sois bien », il faut être très convaincant. Je peux vous dire que si vous n'avez pas d'autres arguments que ça... voilà, ça vous fait sourire, mais il n'y a pas d'autres arguments que ça. Je peux vous dire que dans le vestiaire, c'est le bazar.
Ah ouais.
Vraiment, le coach, il m'a expliqué que dans 3 mois, il fallait que je sois frais, donc je joue pas là. C'est moi, je veux marquer des buts, je veux défendre, je veux voilà. Donc c'est pas aussi simple que ça. Ouais. C'est juste ce que je veux vous dire. J'ai bien conscience que le calendrier est différent.
Ouais.
Qu'il y a 3 périodes dans la première partie de saison où on va jouer 3 matchs en une semaine. Donc là, effectivement, certainement avec les voyages, des rotations, mais j'espère à ce moment-là avoir des gens. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Si j'annonce ça maintenant, on va dire ah bah tiens, de toute façon, moi samedi, je vais jouer. Tiens, non, je peux pas réagir comme ça. Mais dans un monde idéal, oui.
Bon, parlons un petit peu de la situation des gardiens. Avec James Pantemis qui est retourné cette année à Bologne, il se retrouve dans un rôle de 3e, mais bon, on ne reviendra pas à l'histoire du club réserve parce que s'il y en avait un, on n'aurait pas cette discussion. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeune comme ça s'il n'est pas 2e et qu'il ne jouera pas, par exemple, le championnat canadien? Est-ce qu'on doit le prêter? C'est quoi les solutions qui s'offrent à nous?
La première chose que j'ai fait, c'est j'ai discuté avec James et j'ai surtout discuté et écouté l'avis de Joël Batz et puis aussi celui de Rémi Vercoute qu'il a maintenant depuis un mois. Les avis sont très bons sur ce que l'on voit de James, James actuellement, ça on n'a pas de doute. Mais le prêter pour qu'il joue, oui, c'est bien. Comment il va s'entraîner? Est-ce que la progression qu'il va avoir par le fait qu'il va jouer des matchs, s'il l'a, est-ce qu'elle va être aussi à l'entraînement? Comment vont se passer les entraînements? Est-ce qu'il va progresser? Or, la seule certitude que j'ai, moi, que m'ont donné mes entraîneurs de gardiens, encore une fois, qui ont de l'expérience et ma confiance, on pense que si James reste encore 1 an avec nous sans jouer, malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est pas du temps perdu. Au contraire, parce que je connais encore une fois comment ils peuvent modifier les gardiens de but et les faire progresser. James a déjà beaucoup progressé l'an dernier, il en a conscience lui-même. Donc je dirais que je choisis la moins mauvaise solution, voilà, parce que aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça.
Bon, dans le cas de Daniel Lovitz, vous nous aviez informé cet hiver qu'on avait renégocié un nouveau contrat avec lui. On n'a toujours pas eu de communiqué pour confirmer cette nouvelle. Est-ce que ça veut dire que c'est fait, mais on n'en nous a pas informé, ou c'est pas encore fait, ou vraiment c'est sur la glace, ça n'a pas fonctionné?
J'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner. Je sais que Daniel et ses représentants discutent avec le club. Voilà, s'il n'y a pas eu d'informations pour le moment, c'est que
vous ne
pouvez pas vous en donner. Okay. Voilà.
Dans le cas de Nacho Piatti, comment on fait pour ne pas que ça devienne une distraction au fur et à mesure que l'été avance? On sait que sa situation est particulière avec son père qui est malade en Argentine, donc c'est difficile d'essayer de demander aux joueurs de prendre une décision rapidement, mais est-ce que vous croyez qu'il y a moyen de régler ce dossier-là pour 2020 plus rapidement que l'hiver prochain?
Je vais vous dire, j'ai pas d'inquiétude avec Nacho. Si j'en ai, c'est qu'effectivement, il puisse nous quitter à l'issue de cette saison, parce que je sens et je sais qu'il va faire une très bonne saison cette année encore. Mais quand je dis que j'ai pas d'inquiétude, c'est que j'ai pas l'inquiétude de penser que cette situation pourrait influencer son jeu cette année. Voilà. Je connais Nacho maintenant très bien. C'est un type formidable au-delà du joueur et je sais que sa seule envie, il en a deux en fait, c'est de ne jamais décevoir et de gagner quelque chose avec l'Impact. Donc à partir de là, j'ai pas d'inquiétude avec lui pour cette année.
Êtes-vous heureux de l'équipe que vous avez?
Oui.
Oui?
Ben oui. Je prends beaucoup de plaisir. Bon, je vous parle, c'est le lendemain d'un match où, encore une fois, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, surtout sur les 45 premières minutes. Donc oui, mais au-delà de ce match-là, je crois que depuis le début de saison, le travail est excellent, l'ambiance entre nous est excellente. Je sens de la motivation, je sens de la concentration. Voilà, un peu de confiance aussi qui nous a sans doute manqué l'année dernière parce qu'on manquait de repères les uns les autres. Donc je me bats plutôt pour un excès de confiance cette année que l'inverse, donc je préfère ça. Voilà, maintenant, vous savez, Arsène Wenger m'avait dit un jour, la pré-saison c'est la lune de miel.
Exactement.
Et le début du championnat c'est le mariage, donc on verra comment ça se passe.
Il y avait déjà un entraîneur qui me disait la pré-saison c'était du fool's gold, alors de l'or pour les fous. Alors on verra bien à partir de samedi à San Jose. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques minutes et on vous souhaite surtout bonne chance cette saison.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup à l'entraîneur Rémi Garde qu'on recevra en studio dans les prochaines semaines quand l'équipe reviendra à Montréal. C'est l'heure des nouvelles au réseau Cogeco et au 98.5. Dans quelques instants, je vous invite à rester là. Je vous présente une entrevue réalisée avec Jean-Yves Thériault, cet ancien champion du monde de kickboxing à qui Georges Saint-Pierre a rendu hommage hier alors qu'il prononçait de bonnes paroles pour les gens qui l'avaient inspiré pendant sa carrière au moment où il annonçait sa retraite. Alors, Jean-Yves Thériault est avec nous ce soir. On lui demande comment il s'est senti quand Georges Saint-Pierre, eh bien, lui a rendu hommage et retour, évidemment, sur sa carrière. Fort intéressant à ne pas manquer dans quelques instants.